D'abord, c'est quoi le sexisme? C'est une attitude de discrimination fondée sur le sexe, spécialement la discrimination à l'égard du sexe féminin. Les gens qui en sont victimes, 87% sont des femmes. En général, on dit qu'il y a des sports de garçons et des sports de filles. Les sports de filles sont par exemple le patinage artistique, la gym, la danse. Et les hommes qui font ce sport sont souvent victimes de sexisme. Et c'est la même chose pour les femmes qui font des sports de garçons, comme le hockey, le rugby. 60% des filles pratiquant un sport sont victimes de sexisme, contre 24% pour les hommes. De grands sportifs ont été victimes de sexisme. J'ai interrogé la championne française de hockey Tourangeau sur le sujet. Elle m'a dit que beaucoup lui ont dit qu'elle n'avait aucun avenir dans le hockey. Elle ne s'est pas découragée, et avec beaucoup d'entraînement et de volonté, on peut devenir la meilleure. Le sexisme est inscrit dans la loi pénale et peut être sanctionné de 3 ans de prison plus 5000 euros d'amende.
Célia, est-ce que toi-même tu pratiques un sport?
Oui, le hockey. Oui, le hockey sur glace.
Alors, tu pratiques ça à Tours?
Oui.
Est-ce que tu es intégré à une équipe féminine de hockey ou c'est mélangé avec les garçons?
Alors, moi je suis en U13, donc je suis encore avec les garçons, mais je connais des équipes avec les féminines.
Donc toi, ton objectif c'est aussi de continuer pour pouvoir intégrer l'équipe féminine de hockey sur glace?
Oui, c'est ça.
Est-ce que avec les garçons, hockey sur glace, pour toi, ça se passe bien? Ou il y a eu quand même des fois des choses où tu dis « Ah, parce que je suis une fille, c'est un peu différent. »
Là, ça va avec mon équipe, mais des fois, je me suis pris des remarques « Ouais, t'es nulle parce que t'es une fille. »
Oui, parce que tu parlais des sports avec des stéréotypes. Le hockey sur glace fait partie des sports où on imagine plutôt que c'est un sport de garçon, plutôt un sport de fille. Est-ce qu'inversement, tu connais des garçons qui font des sports? Tu parlais de la gymnastique ou du patinage artistique et eux aussi, je sais pas, la patinoire, peut-être que t'en croises.
Je croise un garçon, vu que le patinage artistique, ils sont juste avant nous, et ben il fait du patinage artistique et c'est le meilleur de ce que je vois. Et ça a l'air de bien se passer, je lui ai pas vraiment parlé parce que je le croise pas souvent.
Et ben merci à toi Célia pour ce témoignage.
Bonjour, je m'appelle Anès, je suis un élève de 5e D au collège Jules Michelet, je suis en présence de Arsène et moi-même.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler du boxeur Nassim Ahmed pour son style de boxe peu commun et surtout très dansant, car oui, il combattait sans garde en misant tout sur ses esquives et son jeu de jambes phénoménal.
Nassim est né le 12 février 1974 en Angleterre, plus précisément à Sheffield, de parents yéménites.
Ahmed débute la boxe professionnelle en poids mouche en 1992. Il devient populaire par son style de boxe peu orthodoxe et son arrogance. Lors de certains de ses combats, il effectue des entrées spectaculaires dans le ring.
Nassim avait un record de 35 victoires pour 0 défaite, mais lors de son 36e combat, Ahmed perdu pour la première fois contre le boxeur Marco Antonio Barrera par décision unanime.
Lors de son dernier combat en 2002 face au champion d'Europe Manuel Calvo pour la ceinture mondiale, Nassim Ahmed remporte le combat sur décision unanime. Mais tout son talent, sa vitesse et sa force semblent émoussés.
C'était Arsène, Anès et moi-même. Nous vous avons parlé de boxe. À bientôt sur Radio Campus.
Je suis Anthony David Kriba et je suis avec mon partenaire Christian Obasanga. Nous sommes à Radio Campus au collège Michelet et nous venons vous parler de notre projet sur le Japon. L'ancien Japon. Tout commence avec le peuple Denisovien à environ 100 000 ans avant Jésus-Christ avec le tout premier shogun Ieyasu Tokugawa. La première période après la Seconde Guerre mondiale, le Japon passe de la royauté à la démocratie. Le premier shogun du Japon est Ieyasu Tokugawa, comme je vous l'ai dit. Les guerriers japonais les plus connus sont les samouraïs apparus au Au Xe siècle, au Japon, les plus anciens japonais ont le sabre de tennisovien, mais saviez-vous que le peuple japonais s'est développé très vite comparé à l'Europe, par exemple? Le Japon fut fondé au 7e siècle avant Jésus-Christ par les petits-fils de l'empereur Jimmu. En récapitulatif, l'ancien Japon se résume sur de grandes cultures autour des samouraïs. Il y a beaucoup de légendes autour des yokai. Il y a beaucoup de légendes autour des yokai, les esprits. La personne la plus importante était le shogun, empereur. Le Japon était très en avance sur son temps en termes d'ingénierie, de raffinement, tout comme de combat. Par exemple, leur katana très développé ou même leur armure à l'époque. Nous allons enchaîner sur le Japon moderne.
Bonjour, je m'appelle Christian Basanga et aujourd'hui nous allons vous parler du Japon moderne. Le Japon actuel est actuellement connu pour sa modernité, ses paysages flamboyants et ses nourritures. Les jeunes connaissent surtout le Japon pour ses mangas. Aujourd'hui, il existe toujours un empereur au Japon, il s'appelle Naruto, mais il ne fait pas partie des décisions gouvernementales. Aujourd'hui, le gang le plus connu est le gang des Yakuza, actuellement au Japon. Le Japon, aujourd'hui, est tellement avancé par rapport aux autres pays, détient le train le plus rapide jusqu'à aujourd'hui. Il existe des milliers d'îles au Japon, mais les Japonais vivent principalement dans ces quatre îles. Hokkaido, Ushinsu, Kyushu et Hiroshima. Le 6 août 1945, la bombe atomique Little Boy est lâchée sur Hiroshima et tue plus de 80 000 personnes et ravage une partie de la ville. La plus longue ère est l'ère Showa. Elle a commencé en 1926 et s'est terminée en 1989. C'était Christian et David sur Radio Campus.
Vous écoutez Radio Campus, nous sommes à Tours. Je vais vous parler du trou dans la couche d'ozone. D'abord, qui a causé ce trou? Pourquoi est-ce qu'il est là? À cause des aérosols et des produits chimiques d'origine humaine, les gouvernements du monde entier ont décidé de signer un traité qui s'appelle le traité de Montréal, qui consiste à ne plus utiliser ces produits chimiques qui dégradent l'ozone. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ozone, c'est une couche qui nous permet de protéger des rayons du soleil trop violents pour notre peau et de détruire les particules qui viennent de l'espace. Depuis les années 1980, la couche d'ozone est surveillée de près car pendant des années, des produits chimiques présents ont dégradé l'ozone. On a remarqué dans les années 60 qu'il y avait un trou au-dessus de l'Antarctique. Le trou est causé par les particules chimiques de chlore et de brome en mouvement dans la stratosphère. Mais aujourd'hui, le trou dans la couche d'ozone commence à se résorber, mais pour que le trou ne sera pas totalement rebouché dans plusieurs, donc très très longtemps. Et merci de m'avoir écouté, donc c'était Melek, à Radio Campus, à tous.
Bonjour, je m'appelle Siana,
Layla,
et Jazz.
Les invités vont vous parler du maquillage et de son histoire.
Tout d'abord, nous allons parler du maquillage et des hommes. Alors, le maquillage est souvent attribué aux femmes, mais les hommes aussi se maquillent. Les 18 à 24 ans utilisent 68% et les plus de 54 ans, 28%.
Dans certains pays, comme la Corée du Sud, les hommes se maquillent et cela est accepté. Les hommes du passé utilisent du maquillage eux aussi, en Égypte où ils s'en servaient pour se protéger les yeux du soleil.
C'est plus en Afrique dans le monde qui utilisent le maquillage dans le monde. Le maquillage pour les hommes à l'Antiquité. Les Romains ciblaient le corps et le visage, ils mettaient de la peinture sur la calvitie pour la cacher.
Le maquillage pour les hommes au Moyen Âge. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les hommes mettaient des perruques et se poudraient. Ils mettaient du rouge sur leurs joues et collaient des mouches de taffela. Les mouches de taffela est fait de velours noir ou d'un point de crayon. On le fait pour reproduire un grain de beauté.
Le maquillage à la préhistoire. L'homme de Néandertal utilise des pigments jaunes comme maquillage.
Le maquillage aujourd'hui. Pour les hommes, le vernis est le plus employé. Pour les hommes, le vernis est de plus en plus utilisé. On voit qu'il y a de plus en plus de sphères qui mettent et qui font bouger les cheveux en se montrant comme exemple.
Mais ils ont toujours un mauvais aperçu pour la société car certaines personnes les ont trouvés trop efféminés.
Le cinéma des années 1920 a quant à lui amené à une population massive du maquillage. Enfin, c'est peu près à ce moment qu'on a assisté à la disparition du plomb dans les produits cosmétiques.
C'était Laïla, Jazz et Siana avec Radio Campus.
Je m'appelle Nour et je vais vous présenter le youtubeur MrBeast. Il a créé sa chaîne YouTube à 13 ans en 2012. Il est connu car il a fait des dons et des records du monde. Sa chaîne a fait 125 millions d'abonnés. Son premier don, c'est une chaîne de publicité qui lui a demandé de l'argent. Un jour, il a organisé un jeu pour gagner $1 million. Il fallait laisser sa main le plus longtemps possible sur la boîte contenant l'argent. Il prend des abonnés au hasard et un des abonnés a gagné la somme d'argent. Je trouve que ces actions sont intéressantes parce qu'il donne de l'argent à ceux qui ont besoin et en plus il est rigolo. Quand je regarde ses vidéos, je pense un bon moment. Je recommande cette chaîne YouTube.